Partie 1. Un visage familier. Chapitre 1. Nicky Cervantes esquissa un sourire quand deux types de Wall Street le bousculèrent au passage, l'un excité d'annoncer à l'autre que le cours des actions Apple avait bondi de 6% depuis la sortie du nouvel iPhone. Ils devinaient à leur ton qu'un marché en hausse leur rapporterait gros. Nicky souriait, parce que lui aussi spéculait sur cette marque, pour ainsi dire. Ces mecs en costard-cravate pouvaient bien s'extasier devant un gain de 6%. Le retour sur investissement de Nicky, lui, avait presque triplé ces derniers jours. Lorsqu'il y a une telle demande pour le dernier gadget à la mode, tout le monde se fiche de sa provenance. Ce qui simplifiait la tâche de Nicky. Il se sentait même un petit peu moins coupable. Selon lui, toute personne assez bête pour acheter un téléphone le jour de sa sortie méritait de le perdre. Pour être honnête, il n'avait jamais beaucoup culpabilisé. La première fois, il s'attendait à se sentir vraiment mal, pensant que la fille se mettrait à pleurer ou que l'appareil contiendrait des photos de son bébé qu'elle ne récupérerait jamais. Mais quand il avait enfin trouvé le courage de le faire, de lui arracher cette saleté des mains alors qu'elle tapait un SMS, elle n'avait pas eu l'air de s'en soucier. Il se souvenait encore de sa réaction. Une main protégeant son sac à 1000 balles, l'autre cachant le profond décolleté de sa robe portefeuille. Aux yeux de cette fille, il n'était qu'un minable, et le téléphone n'était pas cher payé pour protéger ce qui comptait vraiment. Nicky savait qu'il n'était pas un pauvre type. Mais il n'était pas non plus « quelqu'un », pas comme ces mecs de Wall Street. Pas encore, en tout cas. Il n'était qu'un môme, dont la mère joignait les deux bouts grâce aux 600 dollars qu'il rapportait à la maison tous les mois, depuis que M. Robinson l'avait embauché dans son magasin de peinture de Flatbush l'an passé. Et puis, il était aussi le lanceur vedette de l'équipe de baseball du lycée Medgar Evers, avec une moyenne de points mérités de 0,6, une balle rapide à 142 km/h, une moyenne au bâton de 0,450, et une balle courbe et un changement de vitesse grâce auquel il accumulait les prises. Avec des résultats pareils, Nicky avait finalement dû renoncer aux 9 dollars de l'heure que lui filait M. Robinson, son entraîneur estimant qu'il se dispersait trop. Si tout se déroulait comme prévu, il pouvait espérer être sélectionné en ligue professionnelle dès la fin du lycée. Avec sa première paye, il pourrait faire don d'un millier de téléphones à des associations caritatives pour se faire pardonner ses agissements actuels. Nicky avait déjà une 50aine de vols à l'arraché à son actif, mais il restait prudent, contrairement à certains gars de sa connaissance qui revendaient aussi du matériel informatique. Ce soir-là, il attendait les métros bondés de 18h30 à Times Square, postés sur la rampe d'accès aux lignes N et R, essentiellement des habitants de Manhattan, donc faible probabilité de résistance. C'était comme retirer un jouet des mains d'un bébé, sauf que le jouet en question était un téléphone à 500 dollars, et le bébé une meuf canon qui s'en ferait offrir un autre par le sugar daddy qu'il entretenait. La technique était toujours la même. Traîner sur le quai, comme s'il attendait de monter dans une voiture, tout en cherchant des yeux une proie debout près des portes, son gadget à la main. De préférence une femme distraite et sans défense. Puis l'attraper, l'arracher et se tirer. Le temps que la fille comprenne que son téléphone avait disparu, Nicky avait déjà monté la moitié des marches. Fastoche. Il entendit le bruit de ferraille d'un train qui entrait en station, vit ses phares approcher, rejoignit les autres moutons qui se massaient tout au bord du quai, espérant fébrilement gagner le gros lot du New-Yorkais à l'heure de pointe, un siège libre. Siram était arrivé et reparti sans bébé ni jouet. Cette fois-ci, tandis que les voitures s'arrêtaient dans un cahotement, Nicky vit ce qu'il cherchait à travers les portes vitrées. Yeux baissés, téléphone à la main, cheveux blonds vénitiens tirés en queue de cheval basse, pull blanc à manches longues, sac à dos aux épaules. Malgré les secousses, elle pianotait des deux mains, gainant les muscles de son ventre pour garder l'équilibre. Il aurait dû se douter que c'était mauvais signe. Posant un pied dans la voiture, il attrapa le téléphone et pivota sur ses talons, comme il l'avait déjà fait 50 fois auparavant. Puis joua des coudes pour traverser la grappe de passagers en colère entrés à sa suite dans l'habitacle, chacun espérant grappiller quelques centimètres carrés de libre dans le train bondé avant que les portes se ferment. S'il avait su ce qui allait suivre, il aurait peut-être couru plus vite pour rejoindre l'escalier. Ce ne fut qu'une fois parvenu au sommet des marches qu'il comprit le problème. Ou plutôt, l'entendit. Pas un bruit de chaussures, mais celui des badauds surpris qui assistaient à la scène. « Hé ! Qu'est-ce qui... Vous avez perdu une chaussure, madame ! Oh mon Dieu, David, il faut vraiment qu'on quitte cette ville !» Nicky jeta un rapide coup d'œil derrière lui et vit la femme se débarrasser de sa seconde ballerine tout en montant 4 à 4 l'escalier pour le rattraper. En l'apercevant à travers la vitre, il s'était dit qu'elle n'était plus toute jeune, mais son visage avait maintenant l'air sacrément déterminé. Ses yeux aussi, tout comme ses bras énergiques qui fouettaient l'air d'avant en arrière. En haut de l'escalier, il tourna à gauche, puis à droite, et emprunta la passerelle vers le magasin d'électronique situé entre les voies N et R et les voies 1 et 2. Pourquoi certaines lignes étaient-elles identifiées par des lettres et d'autres par des chiffres ? C'est fou comme des pensées complètement déplacées lui traversaient l'esprit quand il était stressé. Il discerna les basses d'un vieux morceau de Run DMC que son père écoutait quand il vivait encore avec eux. Coup de bol. Les danseurs de breakdance attiraient toujours une foule compacte. Il bondit par-dessus une poussette rangée à côté du public, suscitant un « Oh !» de l'auditoire, qui s'imaginait que son saut improvisé faisait partie du spectacle. Puis il pressa le pas, les yeux rivés aux marches qui le mèneraient au quai des lignes 1 et 2. Derrière lui, d'autres cris lui parvinrent. La foule n'avait pas arrêté la femme. Un enfant tomba et se mit à pleurer. Elle ne plaisantait pas, cette meuf. Il dévala les escaliers, espérant entendre le cliquetis familier d'un train à l'approche. Pas de chance. Il songea à lâcher le téléphone, mais le quai était noir de monde. L'appareil tomberait par terre sans que la femme s'en aperçoive et serait ramassé par quelqu'un de plus vénard que Nikki ce jour-là. Il décida d'utiliser la foule à son avantage. Analysant le quai devant lui à la manière d'une course d'obstacles, il repéra trois ou quatre parcours en zigzag qui lui permettraient de rejoindre la sortie suivante. Il risqua un nouveau coup d'œil dans son dos. La femme ne tarderait pas à le rattraper. Elle était aussi rapide que lui, peut-être même plus. Et elle était plus petite, plus agile. Elle se faufilait par un chemin plus direct que le sien. Au loin, il repéra un chanteur ambulant qui reprenait avec des trémolos dans la voix un air de négro spirituel, derrière un panneau en carton que Nikki ne pouvait déchiffrer de là où il se trouvait. La musique était pourrie, mais le message devait avoir quelque chose d'envoûtant car une masse de gens s'était agglutinée autour de l'étui à guitare ouvert à ses pieds. Ils occupaient toute la largeur du quai, ne laissant voir aucune brèche. La femme continuait à gagner du terrain. Il entendit enfin un cliquetis dans le lointain, vit des lumières surgir sur sa gauche. C'était un train de banlieue en direction du nord. S'il parvenait à contourner cette foule, il serait tiré d'affaire. Il continuerait à courir jusqu'à ce que le train s'arrête, monterait à bord à la dernière seconde. Puis les portes se refermeraient derrière lui et adieu la compagnie. C'était presque fini. Nikki fit un pas sur la gauche, se tourna de côté pour se glisser le long d'un pilier. Dans son champ de vision, il aperçut la longue chevelure noire d'une femme se balancer de droite à gauche, comme dans une pub pour shampoing. Un « désolé » lui échappa lorsqu'il sentit un grand coup contre sa hanche droite. Tout en tombant en arrière, il vit ce qui venait de le heurter, le sac en toile rose fluo de la brune. Puis le message sur la pancarte du chanteur « Y a pas que le gouvernement qui a besoin d'argent », suivi d'une foule de visages épouvantés quand son corps heurta les rails. Pendant les quelques secondes où il resta étendu là, il fut traversé par une drôle de pensée. Son bras droit. Est-ce qu'il allait perdre son bras droit ? Tandis que le bruit du train se rapprochait, il se demanda si sa mère découvrirait un jour pourquoi il se trouvait à la station Times Square après les cours, au lieu d'être derrière la caisse du magasin de peinture de M. Robinson. Ses réflexes lui revinrent d'un coup, plus que des réflexes, un profond désir de vivre. Instinctivement, il s'aplatit entre les rails. Il entendit des cris. Il ferma les yeux, espérant ne pas sentir l'impact. Puis quelque chose d'inattendu eut lieu. Son corps quitta le sol. Il ouvrit les yeux, mais ne vit que du blanc. C'était ça, le paradis ? Le blanc fit de nouveau place au spectacle du quai. Les gens le fixaient, criaient, lui demandaient s'il allait bien. Il tourna la tête vers la surface blanche et floue qui disparaissait au loin. C'était le pull de la femme qui l'avait poursuivi, surmonté de sa queue de cheval blond vénitien, toujours bien en place. Ses bras se balançaient d'avant en arrière tandis qu'elle montait les escaliers en trombe, sans jamais ralentir l'allure. Elle avait son iPhone à la main. Et Nikki ? Nikki allait s'en sortir.